bonjour à tous. Merci d'être venu à ce séminaire sur les modèles spatiaux en sciences humaines et sociales. Je vais vous présenter les deux intervenants et ensuite je leur laisse la parole. Donc dans un premier temps, nous aurons Kamal Serini de l'UMR Citer qui va plutôt présenter les modèles spatiaux en général et quelques applications qu'il a eu l'occasion de travailler avec certains thésards. Dans les domaines de la géographie. Et ensuite, nous aurons Nicolas Debarcy, du LEO, donc le laboratoire d'économie d'Orléans, qui nous présentera des applications plus d'ordre économique dans sa deuxième présentation, donc avec des applications plutôt d'ordre visuel. Voilà, avec beaucoup d'applications visuelles. Je te laisse la parole, Kamal.
Merci, Dominique. Donc, bonjour à tous. Donc, à la demande de mon collègue et ami Dominique Andrieux, on a travaillé ensemble donc, à pas mal de projets de recherche, notamment récemment, un projet de recherche régional et, que j'ai exploité pas mal pour cette présentation-là. Ce projet de recherche, donc, intitulé « Transport, réseau, urbanisation et croissance », qui s'est terminé juillet dernier et qui se poursuit par un autre projet. Donc, on a été accepté par la région pour poursuivre nos travaux dans le cadre d'un truc numéro 2, on va dire. On va l'appeler comme ça pour simplifier. Et dans lequel on a aussi notre collègue avec nous dans ce nouveau projet-là. Donc, on a élargi un petit peu les points de vue dans nos questionnements. Alors, interaction spatiale, j'ai prévu trois points avec un premier point. Donc c'est très difficile pour moi de ne pas parler un petit peu de théorie et de mettre un peu les bases théoriques, sachant que Dominique m'a bien précisé, pas trop d'équations, pas trop de modèles, mais soit un petit peu plus appliqué. Donc derrière, mon excuse d'avance pour ce premier point. Et derrière, je vous présente un petit peu deux applications pour que ça puisse peut-être un petit peu susciter la discussion et l'échange. Peut-être même, en fonction du temps, s'il reste un petit peu de temps, j'ai même une troisième application qui correspond, mais celle-là, c'est vraiment assez long, qui correspond donc à un travail de thèse qui a été soutenu en juillet dernier par Hussein Aladdin et qui correspond à un autre type de modèle d'interaction, puisqu'il s'agit, dans ce modèle-là, de l'évacuation du Val de Tour, Val de Gien face au risque d'inondation. Alors, en introduction, je dirais que donc je vais avoir du mal à vous donner une définition, tellement les définitions sont nombreuses, multiples. Donc on peut dire que l'ensemble de l'intervention, c'est une manière de définir l'interaction spatiale ou de voir ce qu'il y a derrière. Alors, donc en introduction, je dirais que depuis les années 1950, il y a eu pas mal d'études, pas mal de travaux sur l'interaction et sur la modélisation des interactions entre lieux spatiaux. Dans des domaines variés tels que le transport, la planification de transport, tels que le logement, les migrations et les télécommunications notamment. Alors, premier point en commun de ces travaux-là, de ces études-là, c'est qu'ils se sont intéressés à l'analyse des flux entre les lieux. Hein, l'analyse des flux entre les lieux, ces flux en termes de capitaux, en termes de déplacement de personnes, en termes d'information, de communication, et en termes de diffusion de l'innovation. L'interaction spatiale va s'intéresser à deux choses principalement. Elle va s'intéresser tout d'abord à estimer ces flux, à quantifier ces flux, à caractériser ces flux. Donc l'intensité de ces flux, ça va être la première chose qu'on va étudier dans le domaine de l'interaction spatiale, en partant, si c'est possible, des flux existants, des flux observés, empiriques. Et tout de suite, en tant qu'aménageur, on va dire, et puis même pour le collègue géographe, dans le domaine de l'interaction spatiale, on va se poser la question de l'évolution de ces flux-là. Demain après demain, ces flux-là, ils vont être comment? Ils vont évoluer comment? Donc c'est une tentative de prévision de l'évolution des flux dans une démarche, on va dire, prospective. Ça, c'est le premier point en commun des travaux dans le domaine de l'interaction spatiale. Le deuxième point majeur en commun, c'est que ces travaux-là, ils vont essayer de focaliser sur une échelle macroscopique, une échelle plutôt macroscopique. Microscopique, c'est à l'échelle d'un individu, c'est plutôt les sciences sociales, en sociologie, En psychologie, on va s'intéresser à l'étude du comportement d'un individu, hein, d'une entité, d'un agent. Alors que dans le domaine de l'interaction spatiale, le comportement d'un individu, d'un agent, va être, si vous voulez, étudié d'une manière agrégée, noyé au sein d'un groupe. Donc on va s'intéresser aux échanges de personnes entre unités spatiales plus ou moins importantes, telles que les communes, par exemple, ou les régions. Voilà, donc c'est plutôt le niveau macroscopique qui va être considéré en général, dont la thèse de Hussein, on a travaillé à l'échelle mésoscopique parce qu'on a envoyé des paquets de gens. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres types d'échelles qui pourraient être considérées. Pourquoi l'échelle macroscopique? Généralement, ça s'explique par les visées opératoires de l'interaction spatiale. L'interaction spatiale, elle souhaite généralement avoir des résultats, avoir des réponses à des questions qui sont affichées clairement par ces travaux-là, telles que l'optimisation de l'offre de transport, par exemple, en fonction de la demande. Donc là, il y a un célèbre modèle qui est très connu. Je ne rentrerai pas du tout sauf s'il y a des questions par la suite, si vous voulez. Le modèle à quatre étapes qui est très très connu. Ça a été développé à Lyon, par exemple, par les collègues du laboratoire d'économie de transport. Il y en a un qui a été développé sur la région parisienne. Donc là, c'est des travaux relativement importants. Visée opératoire en termes de connaissances et de maîtrise de l'étalement urbain, c'était notre cas dans le projet de recherche régional TRUC et dans le suivant. Et puis aussi, ça peut être la question de la gestion des crises, donc pour l'évacuation de la population. Alors, historiquement, l'interaction spatiale va s'intéresser à trois questions, trois hypothèses qu'on va essayer d'élucider, qu'on va essayer d'analyser. La première hypothèse, c'est, comme je l'ai indiqué, c'est d'étudier les échanges entre les lieux et ces échanges-là. On va essayer de les étudier en rapport avec le poids. On utilise le terme de masse, parce que c'est les lois de la physique qui vont être utilisées dans le domaine des sciences humaines. Donc le terme de masse des lieux origine et des lieux destination, le poids, on va essayer d'étudier en fait effectivement l'intensité de ces échanges-là en fonction des poids, en fonction des capacités émettrices et des capacités réceptrices des zones géographiques. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, c'est que ces flux-là, ces échanges-là, historiquement, l'interaction spatiale va s'efforcer, va démontrer, on va voir que ces flux-là vont diminuer avec la distance. Hein, c'est inversement proportionnel avec l'éloignement. Donc la notion de distance qui vient donc interférer à ce niveau-là. Cependant, par la suite, ça sera critiqué parce qu'il n'y a pas que la distance qui intervient pour expliquer en fait la diminution des flux entre les lieux. Il y a d'autres facteurs, par exemple le niveau de connaissance, le niveau d'information disponible. Auprès des agences, si je ne sais pas qu'il y a tel ou tel service disponible à telle ou telle destination, bah, je ne vais pas forcément, je vais pas y aller. Mais il n'y a pas que des explications de distance et de disponibilité d'informations, de quantité d'informations. Il y a aussi et surtout des explications économiques. Il faut avoir des moyens disponibles, il faut mettre des moyens sur la table pour pouvoir participer à telle ou telle activité. Et la troisième hypothèse, un petit peu plus ardue, plus difficile à mettre en œuvre et à développer deux lieux appartenant à deux entités territoriales. Donc, si vous avez deux régions et vous étudiez les flux entre les communes de ces deux régions, on s'aperçoit que deux lieux appartenant à deux entités territoriales, ils vont avoir des flux plus importants lorsque ces entités-là, elles appartiennent à la même unité territoriale. Donc, il y a un effet de barrière et de frontière qui a été soulevé à ce niveau-là. Alors, très rapidement, historiquement, l'analogie avec les modèles gravitaires, elle remonte. Donc, j'ai dit 1950, il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux sur d'application des modèles gravitaires en sciences humaines. Cependant, ça remonte à 19e siècle, fin 19e siècle. Un des auteurs très connu, hein, qui revient très très souvent dans les travaux, Rammstein, 1885, ça a été un des premiers à appliquer la théorie gravitaire dans le domaine des flux de personnes. En disant que le nombre de migrants, effectivement, c'est ce qu'on vient de dire au niveau des hypothèses précédentes, que le nombre de migrants de la zone d'accueil est proportionnel à la population de la zone d'origine, de départ, et inversement proportionnel à la distance qui sépare les deux lieux, premièrement, et que l'intensité des flux va augmenter avec le développement économique. Plus les zones géographiques sont dynamiques d'un point de vue économique, plus il y a de chances qu'il y ait plus de mobilité, de flux. Donc, un premier modèle que j'ai récupéré de l'article de Christophe qui est sur Subergeo, très très simple, c'est que le flux ou le débit est les fonctions de la population de l'origine, I. Donc l'origine, le tout multiplié par une constante G, ça nous rappelle en fait la constante G du modèle gravitaire tout simplement. Donc c'est un modèle aspatial, il n'y a pas de distance, il n'y a rien. Et la population, donc émise, c'est souvent la population. Cette population-là, on ne sait pas où est-ce qu'elle est en fait. Hein. Voilà. Donc si on veut émettre quelques petites critiques à ce premier, à cette première relation. Par la suite, donc on va essayer d'améliorer en fait la situation et on va essayer d'intégrer la distance. L'intégration de la distance qui va se traduire par ce nouvel formalisme, si vous voulez, l'interaction entre deux lieux cette fois-ci, et pas uniquement entre un. Tout à l'heure, il y avait un seul lieu. Là, maintenant, l'interaction entre couples de lieux donc, va être analysée en fonction du poids de la destination. Du poids de la destination J, le tout pondéré par la distance entre les deux. Donc effectivement, la distance va jouer le rôle de friction, va jouer le rôle de. Il va réduire ces flux-là. D'accord? Le tout va être pondéré par une constante, qui rappelle la constante G précédente. Donc une première évolution a consisté donc à introduire la notion de distance qui va donc à son tour à son tour impliquer un phénomène de décroissance des flux avec l'éloignement. Puis avec le début du XXe siècle, après l'histoire, ça va être quoi? Ça va être rendre ces modèles-là de plus en plus génériques, hein, généraliser ces modèles-là. Donc très très rapidement, hein, de manière extrêmement condensée, les auteurs principaux qui reviennent souvent, il y a énormément de bibliographies sur le sujet, énormément d'applications. Mais quand on regarde ces références bibliographiques, en fait, tous les auteurs citent en général ces auteurs-là. Donc, il n'y a pas que ces auteurs-là, il y en a d'autres, bien évidemment, mais les principaux, en fait, ceux qui étaient précurseurs, qui reviennent souvent, j'essaie de vous les indiquer, en fait, dans cette présentation. Donc après, l'interaction va être traduite par le terme A, entre deux lieux, ça va être le poids du lieu d'origine, ramené à la distance, multiplié par le poids du lieu de destination. D'où le au carré, le fameux, la puissance au carré, donc ça vient de là en fait. Voilà. L'exposant de la distance séparant les lieux origine-destination. Et en bas, vous avez en fait le modèle, on va dire, le plus générique, le plus général possible. Et maintenant, tout le travail, ça va consister à mettre en œuvre cet outil-là. Et surtout à déterminer donc les paramètres K, B et l'ensemble des puissances B1, B2 et B3. C'est ça la problématique du modèle gravitaire. Alors, l'exposant très souvent utilisé, c'est 2. Cependant, on peut essayer de le déterminer. Alors, l'exposant, il peut changer en fonction des services qu'on va chercher en fait. Si vous allez par exemple chercher des services qui sont très très fréquents, hein, qu'on cherche au quotidien, on va chercher la baguette, et donc forcément la distance elle prend une importance majeure, donc il faut que la baguette soit à proximité. L'exposant B3, dans ce cas-là, il va être supérieur à 2, plutôt supérieur à 2. Donc si on le quantifie, si on le calcule, dans le cas contraire, si vous allez chercher des services qui sont beaucoup plus rares, vous devez faire une énorme distance pour aller, je sais pas, pour aller à un colloque qui se trouve, je sais pas où. Donc la distance, elle s'efface plus que par rapport aux services, on va dire fréquents, et donc la puissance B va être, dans ce cas-là, moindre, elle va être inférieure à 2. Donc voilà. Donc la qualité d'un modèle dépend énormément, tout ça pour vous dire que la qualité d'un modèle dépend énormément au-delà des attractions, des générations, elle dépend des paramètres qui vont servir au calage et à l'ajustement de ce modèle-là par rapport à une problématique étudiée dans un contexte spatial donné. Donc l'interaction spatiale, une petite conclusion, je veux dire, l'interaction spatiale, donc elle est souvent, très souvent associée au modèle de type gravitaire et donc on a différentes formes de ces modèles-là. Alors, première petite application, on a essayé de modéliser les flux domicile-travail à l'échelle de l'agglomération Tourangelle, dans le but donc de connaître ces flux-là, dans le but d'estimer Donc le poids de ces flux-là, et dans un premier temps, pour ensuite espérer faire des projections en regardant un peu ce qui se passe, en prenant des hypothèses qui proviennent par exemple du schéma de cohérence territoriale. Alors, le site d'étude, il est un peu particulier. Le site d'étude, ce n'est pas l'agglomération de Tours, mais c'est un site d'étude qu'on a un peu confectionné, fabriqué. On a mis en fait la ville centre, la ville la plus dense, on va dire, on a mis ça au centre de notre site d'étude, et puis on a une première couronne, une deuxième couronne, le but étant, puisqu'on veut étudier la migration domicile-travail, les flux, il ne faudrait pas négliger des flux importants, sachant que dans le site de l'agglomération de Tourangelle, la ville de Tours, elle est plutôt excentrée vers l'est, donc ça ne me semblait pas très judicieux. Et donc on a modifié un petit peu on a adapté notre site d'étude. Alors, donc le but étant d'anticiper donc les déplacements futurs, des déplacements des ménages, donc les déplacements de type, donc c'est un motif particulier, c'est un motif de travail, domicile-travail, en mettant en œuvre donc le modèle gravitaire que vous avez devant vous, donc les TIJ, donc l'attraction fois la génération ramenée à la distance avec ce monde de paramètres alpha et bêta. Sachant que bêta étant ce qu'on appelle le frein en déplacement qui vient en fait peaufiner cette notion de friction due à la distance. Alors, les étapes de mise en œuvre. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les étapes de mise en œuvre, les principales étapes, c'est assez lent, hein, c'est assez fastidieux, mais après, on va dire avec la pratique, ça devient moins compliqué. Alors, les principales étapes, dans un premier temps, il faut disposer du réseau de transport, puisque là, on va étudier dans ce cas-là la mobilité domicile-travail due à la voiture. Hein, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas les autres modes de transport. Donc, on se limite uniquement à la voiture. Il faut disposer d'un réseau donc routier complet. Moi, j'appelle ça un réseau propre, hein, parce que ça prend pas mal de travail, de boulot. Il faut que le réseau soit topologique, parce qu'il faut décrire l'ensemble des relations de connectivité entre les éléments constitutifs du réseau. Il faut connaître le sens de déplacement, il faut avoir la vitesse, ce n'est pas disponible dans les bases de données officielles, etc., etc. Il faut ensuite la matrice des distances, différents types de distances. Je n'ai pas prévu de faire une intervention, de parler de la distance. Il y a différentes formes de distances, hein, comme vous le savez. Distance vol d'oiseau, distance réseau. Les distances réseau, ça peut être calculé en distance kilométrique, ça peut être une distance temps, ça peut être une distance coût. Et il y a d'autres types aussi de distances, telles que la distance de Manhattan. Là, ici, dans cette application, on a pris la distance réseau et c'est de la distance temps en minutes. Ensuite, il faut recenser l'ensemble des flux origine-destination. Donc, c'est des données de l'INSEE, hein, c'est le recensement général de l'INSEE, le dernier. Vient l'étape cruciale, principale de mise en œuvre du modèle gravitaire, donc adapté au flux de terrain, adapté au flux de terrain. Adapté, ça veut dire que le alpha et le bêta, ils doivent être spécifiques au terrain d'étude. Tout ça dans un but de scénarisation et donc de prospective. Alors, la première étape, il faut avoir un réseau topologique, donc je vous en fais grâce et on résume. Donc voilà, il y a pas mal de boulot à faire. Il faut que le réseau soit fait proprement. Par exemple, il faudrait renseigner chaque tronçon par une vitesse moyenne. Cette vitesse moyenne n'existe pas, donc il faut trouver une méthode pour calculer cette vitesse-là dans ce cadre-là. Ça, c'est un premier résultat, si vous voulez. On s'est basé sur les densités bâties de part et d'autre, selon un buffer donné, de part et d'autre de chaque tronçon routier pour estimer les vitesses. Et donc, si vous voyez, c'est pas trop mauvais, on va dire, comme résultat, puisqu'on retrouve, si vous voulez, en bleu, les centres, l'hypercentre urbain, là où les densités sont le plus élevées, et là, on a attribué une vitesse la plus faible en conséquence. Donc, une fois vous avez cette première information, un réseau topologique, l'étape suivante, on a travaillé à l'échelle des iris. On a travaillé à l'échelle des iris. Donc, les I et les J, ce sont les iris du site d'étude. Il y en a 124. Donc, la matrice de distance origine-destination va être calculée à l'échelle de couple d'iris. Donc, on prend l'ensemble des nœuds routiers d'un iris et on va calculer tous les chemins minimaux vers tous les nœuds de l'iris de destination et on va faire une moyenne pour avoir un itinéraire moyen. Donc, on a fait cela exprès parce que travailler à l'échelle d'une commune, les communes sont relativement vastes Et prendre le centre-ville des communes, ça va amener une trop grosse imprécision sur la distance, sur le dénominateur des modèles gravitaires. Donc on est passé par cette étape un petit peu plus précise. Et plus... Alors les IRIS, donc, c'est un découpage communal, c'est un découpage de l'INSEE pour les communes de plus de 2000 habitants. Si mes souvenirs... 5 000 habitants. Voilà. Merci Dominique. Donc c'est au lieu d'avoir des polygones de travail à l'échelle des communes, donc on peut descendre à une échelle infracommunale. C'est un découpage de l'INSEE. Mais ça reste quand même à l'échelle macroscopique, hein, ce que j'ai raconté tout à l'heure, ça reste quand même vrai. Hein. Voilà. Donc, et au lieu de calculer les itinéraires minimaux à l'échelle de deux communes, donc on descend quand cela est possible, hein, parce que toutes les communes ne sont pas toutes découpées en IRIS. Certaines communes, c'est un IRIS à part entière. Donc on descend au niveau de la matrice des distances, on descend à l'échelle des IRIS. Donc ce genre de matrice, c'est quelques jours de calcul. Dominique s'en souvient. On avait une armée d'étudiants avec nous pour nous aider. Donc on a la matrice donc, des distances entre toutes les origines vers toutes les destinations. Étape suivante, c'est les flux domicile-travail observés. Donc ce sont des données de l'INSEE. Ces données-là sont disponibles à l'échelle des communes. Et nous, on a décidé de travailler à l'échelle des IRIS. Donc la question va être comment passer de l'échelle communale à l'échelle des IRIS. Donc, tout en validant, bien évidemment, notre choix. Alors, à J, ce sont les attractions. J, ce sont toutes les destinations. L'attraction, c'est quoi? L'attraction va être définie par tous les flux de personnes qui arrivent vers les communes. D'accord? Vous me suivez? Tous les flux qui arrivent vers toutes les communes, ça, c'est ça qui va définir l'attraction. Donc l'attraction de chaque destination va être définie par la somme des flux de toutes les communes origines vers cette commune de destination. Vous voyez, il y a un J au niveau de A, et un sigma TJ, donc de toutes les origines vers le J. Alors cette attraction, vous l'avez dans l'axe des ordonnées, les valeurs, et dans l'axe des abscisses, je vais mettre en fonction les emplois à destination. Les emplois à destination, vous les avez... donc c'est le donné de l'INSEE là aussi. Qu'est-ce qu'on constate? Que ça se corrèle super bien. Voilà, ça se corrèle super bien. Vous avez les indices, les coefficients de corrélation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au niveau du numérateur du modèle gravitaire, les attractions, je vais essayer de traduire ça par l'emploi, hein, puisque j'étudie les mobilités domicile-travail. Je vais faire la même chose pour la génération. La génération, ça concerne les origines, l'ensemble des IRIS. Les gens, ils partent de ces IRIS-là pour aller travailler quelque part. Alors, donc la génération va être définie par l'ensemble des flux sortant cette fois-ci d'une commune vers toutes les autres. Donc, ça c'est, donc je fais juste la somme des données de l'INSEE pour chaque unité spatiale vers toutes les autres. Et je vais essayer de corréler cette fois-ci cette génération avec l'ensemble des actifs. Donc, l'ensemble des ménages, donc vous avez la petite phrase ici, l'ensemble des actifs ayant un emploi et qui se déplacent en voiture. Et là aussi, vous voyez que ça se corrèle très très bien, puisqu'on est à un R carré de plus de 0,8. Donc j'ai déjà répondu à une première question. J'ai de quoi mettre au niveau de l'attraction, et j'ai comment représenter la génération. Donc l'attraction, je vais la représenter par le nombre d'emplois, et la génération, je vais la représenter par le nombre d'actifs. Pardon. Donc ça, c'est au niveau du numérateur. Alors, maintenant il faut que je définisse, je remonte en arrière, excusez-moi. Maintenant il faut que je définisse, donc j'ai défini le A et le G. La distance, ça y est, c'est fait, je vous ai montré comment on a fait, donc entre les IRIS. Maintenant il nous faut le TJ. Parce que le but, c'est calculer alpha et bêta. Les inconnus, c'est alpha et bêta, c'est les coefficients de calage. Ce sont les deux inconnus. Le A c'est fait, le G c'est fait, la distance est faite, et il me reste les TJ, c'est-à-dire les flux entre deux unités. Alors ces flux-là, ce sont des données de l'INSEE. Ça existe. Sauf que ces flux-là, ils existent à l'échelle des communes. Et nous avons décidé de travailler à l'échelle des IRIS. Et donc là, il faut faire une sorte de cuisine, une sorte de pondération des flux communaux. Il faut les répartir par IRIS. Donc l'ensemble des flux sortant par commune, je vais essayer de les répartir par IRIS de chaque commune. Et l'ensemble de flux entrant dans une commune, je vais essayer de les répartir par IRIS de la commune réceptrice. Alors, je vais me baser tout simplement sur donc ce que j'ai déjà utilisé précédemment, sur les actifs. Donc, les actifs à l'échelle, j'ai cette information par iris et j'ai les actifs à l'ensemble de la commune. Donc, je vais calculer un poids, l'ensemble des actifs par iris que je vais ramener à l'ensemble des actifs par commune. Ça me donnera un taux. Et ce taux-là va me permettre de pondérer en quelque sorte les flux sortant de ma commune. Donc ça va me permettre, si vous voulez, de répartir mes flux d'une commune à l'échelle des iris. Je vais faire la même chose pour les communes, pour les flux qui rentrent dans une commune donnée. Je vais essayer de les répartir d'une manière pondérée, bien sûr, sur l'ensemble des iris de la commune de destination. Je ne sais pas si c'est clair, mais je peux revenir là-dessus, je suis désolé. J'évite de rentrer trop dans les détails, et en même temps, il faut que je donne quand même les éléments. Bien, donc voilà, on arrive à ventiler, pour le dire plus simplement, les flux communaux, j'arrive à les ventiler de l'INSEE à l'échelle des iris. Voilà, donc étape cruciale, donc le modèle gravitaire, il est là. Voilà, donc je connais tout sauf le alpha et le bêta. Donc je vais faire introduire donc les logarithmes, je vais développer mon modèle gravitaire, introduire les logarithmes. Je vais avoir cette forme-là que vous avez en haut, là. Ça, c'est une équation de droite. Donc là, ce rapport avec les logs, donc c'est la variable que je cherche à expliquer, la variable dépendante, y, que je vais mettre dans l'axe des ordonnées, dans quelques instants. Et la distance ici, la distance, donc c'est la variable indépendante, c'est la variable explicative qui va me servir pour expliquer, qui va me servir pour expliquer la variable y. Voilà, donc c'est une équation de droite. Et donc on est très très content d'avoir, donc c'est ce qui est plus relativement simple. Donc le but maintenant, ça va être de déterminer en fait A et B. A c'est quoi? C'est le moins bêta, hein, le paramètre de friction de la distance. Et le B c'est l'ordonnée à l'origine de la droite de régression. B c'est le log de alpha. Donc on met en œuvre toutes les données qu'on a fabriqué jusqu'à maintenant, et j'obtiens un troisième nuage de points. Donc là, il y a 124 fois 124, il y a je ne sais pas combien de milliers, de 15 000 points, plus de 15 000 points. Et donc, vous obtenez un nuage de points, et vous avez l'équation de la droite ici, de ce nuage de points. Donc là, je cherche quelle est la droite qui minimise la droite la plus proche de l'ensemble des points. Donc, c'est une régression linéaire. J'ai l'équation de la droite qui me permet de calculer mon alpha et mon bêta. Donc, mettre en œuvre. Ça, c'est une conclusion assez forte, en tout cas pour moi. Mettre en œuvre un modèle gravitaire, c'est quoi? C'est avoir deux valeurs dans sa poche. Pour une problématique donnée, pour un motif de déplacement donné, sur un territoire donné, ça veut dire quoi mettre en œuvre un modèle gravitaire? Ça veut dire avoir deux valeurs dans sa poche, alpha et bêta. C'est ça qui vaut de l'or, si vous voulez, dans ce. Alors, donc, la régression ici. On a R carré de 0,25, assez faible. Le R, il est de 0,5. Donc le R, il est moyen. Il n'est pas mauvais, il n'est pas excellent, mais il est moyen. On a un modèle explicatif qui a un potentiel d'explication de 25%. Du premier coup, c'est rare d'arriver à 0,7, 0,8 du premier coup. Hein. Ça, c'est extrêmement rare. Après, il faut regarder un certain nombre de paramètres. Là, vous voyez qu'il y a des points qui sont éloignés et des points qui sont proches. On pourrait introduire un facteur d'erreur et encadrer la droite de régression et éliminer effectivement des points. On pourrait, voilà, il y a plein de démarches statistiques pour améliorer le modèle gravitaire. Mais la meilleure démarche pour moi, ça serait de revoir le site d'étude, puisqu'on n'a pas pris en compte notamment les flux qui sortent du site d'étude vers les communes environnantes. Voilà, donc une fois qu'on a le alpha et le bêta, maintenant on peut se permettre de faire ce qu'on souhaitait de faire au début, c'est-à-dire faire de la prospective. On rajoute une nouvelle infrastructure de transport, par exemple, donc l'accessibilité va changer. Et on recalcule les flux. Et donc, si d'ici 10-15 ans, il y a une nouvelle autoroute qui arrive, on pourrait l'intégrer, la connecter au reste, recalculer l'ensemble de la matrice des distances, les flux correspondants, et on peut faire des projections en termes d'évolution des flux. Donc voilà, les scénarios possibles, il y a différents types de scénarios. On peut agir soit sur A, donc les attractions. Les attractions, c'est quoi? On peut rajouter de nouvelles zones d'activité. On peut agir sur les générations. Donc si vous avez des nouvelles zones de logement, on peut mettre du logement. Et c'est là d'où vient la question de l'étalement urbain, effectivement. Et on peut aussi agir sur la variable distance et donc sur le réseau routier. Et donc là, on s'est pas mal amusé à rajouter de l'emploi dans différents territoires et on voit comment ça change. Vous voyez, on voit comment ça change les flux correspondants. Je vais vous montrer des résultats prospectifs beaucoup plus intéressants au niveau de la deuxième démarche. Alors, si vous voulez, deux critiques à cette première application. Premièrement, il faut vraiment faire attention au choix du territoire d'études et d'analyse. C'est pour ça qu'on est parti dans notre deuxième travail, on est parti plutôt à l'échelle des aires urbaines, et donc c'est beaucoup plus large, et donc on aurait plus de logique en termes de mobilité dans notre territoire. Et deuxièmement, il y a un problème de redondance d'hypothèses. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on s'est servi de l'emploi et des actifs à la fois pour définir le numérateur et pour définir le TJ. Donc on les a utilisés deux fois, il y a un problème de redondance, donc c'est pas terrible. Bon, deuxième petite application. Alors, les modèles gravitaires et les aires d'influence. Dans le cadre donc d'une démarche gravitaire, il y a un certain nombre d'auteurs qui vont essayer de se servir de l'intensité de la relation pour réaliser un découpage du territoire. C'est ce qu'on appelle les zones ou les aires d'influence. Donc on va se servir de cette intensité, les TIJ, les flux, et on va essayer de découper le territoire en fonction du poids de ces territoires-là. Donc ce découpage, on pourrait l'interpréter en termes d'influence, en termes d'accessibilité, d'attraction, etc. etc. Donc le vocabulaire, il est assez riche à ce niveau-là. Alors il y a un certain œuf. Un auteur assez, très très connu qui a essayé de probabiliser le modèle gravitaire que je viens de vous montrer. Le modèle gravitaire que je viens de vous montrer, c'est une démarche totalement déterministe. Totalement déterministe. Lui, il va essayer de probabiliser, de mettre un petit peu plus de flou dans cette démarche-là. Et donc, la question de Huff, ça a été, quelle est la probabilité PIJ d'un individu, d'un agent situé dans l'unité géographique I, de se rendre à l'unité géographique J. Donc il va raisonner en termes de probabilité. D'où le modèle qu'on appelle le modèle de F. Alors on s'en sert, donc c'est un type de modèle gravitaire probabilisé, on s'en sert notamment pour étudier les aires d'influence d'activités localisées, telles que les supermarchés, voilà, les centres commerciaux. Donc on l'a appliqué sur les trois supermarchés de l'agglomération donc de Montargis. En effet, ça ne suffit pas de calculer l'éloignement entre deux points, il faut aussi étudier la raison pour laquelle on se déplace. Tout à l'heure, on se déplaçait pour aller au travail, raison, motif travail. Cette fois-ci, ça sera un motif achat. D'accord ? Ça sera un motif achat. Et donc, de la même façon que précédemment, il va falloir définir les attractions et les générations. Bien, j'ai qu'une diapositive avec les équations qui est derrière. Alors, EUF va partir de cette notion d'opportunité. Donc, je suis situé en I. Je vais me déplacer en J. Si je me déplace vers J, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'attire dans la destination. D'où la notion d'opportunité de se rendre en J à partir de I. Donc, l'opportunité OIJ, c'est quoi? C'est AJ, c'est l'attraction de la destination. La destination va exercer une attraction sur moi. Le tout va être ramené à la distance. Donc ça, on l'a vu précédemment, la distance entre les deux lieux avec un facteur, avec un exposant bêta. Donc l'attraction, c'est quoi? C'est l'hypermarché, puisque là, je vais étudier les aires d'influence de trois hypermarchés. Donc l'attraction, on va retenir pour le moment que c'est tel ou tel hypermarché. La probabilité, c'est quoi? La probabilité, maintenant, c'est tout simplement l'opportunité entre IJ, entre un couple de lieux, divisé par la somme de toutes les opportunités du lieu I, là où je suis, vis-à-vis de tous les autres lieux. D'accord? J'ai une probabilité vis-à-vis de tous les autres lieux. Donc je fais la somme de toutes ces probabilités et ça me donne donc le rapport, ça me donne la probabilité de... C'était la question à laquelle il voulait répondre justement, œuf. Donc là, c'est une valeur entre 0 et 1, c'est une probabilité. Maintenant, si je veux basculer du relatif à l'absolu, donc je voudrais connaître les flux effectifs entre I et J, donc le flux les ménages qui sont captifs d'un supermarché, c'est ça, TIG, c'est la probabilité que je viens de calculer, multipliée par la génération, donc le nombre de ménages situés au niveau de chaque unité spatiale origine, I. Donc c'est la génération que je vais traduire par le nombre de ménages. Donc voilà un peu le principe général du modèle d'œuf. Donc en comparaison avec le modèle gravitaire, donc on va retrouver à peu près les mêmes étapes. Donc le but c'était de modéliser les déplacements des ménages vers différents lieux de consommation. À J, l'attraction sera représentée par les surfaces de vente de l'hypermarché en mètres carrés. Vous pouvez utiliser autre variable si vous voulez. Le nombre de personnes qui travaillent dans l'hypermarché peut être considéré. Il y a combien d'employés dans cet hypermarché, donc ça peut faire office d'attraction. La distance donc entre l'origine et la destination, dans ce cas-là, on a travaillé aussi à l'échelle des eris, mais on a fait juste le calcul entre les distances entre les centres 8 des eris. On n'a pas fait ça depuis tous les nœuds vers tous les nœuds du réseau des deux eris. Donc ça a été un petit peu plus simplifié ici. Et la génération donc des communes émettrices, on va dire de consommateurs, la génération ici va être considérée par donc le nombre de ménages de chaque iris. Et donc le nombre des ménages, c'est une information qu'on obtient en divisant la population des ménages, si vous voulez, par une valeur spécifique au département du Loiret. Donc ce sont des données de l'INSEE pour avoir le nombre de ménages par iris. Voilà. Le site d'étude, pour avoir une idée sur le site d'étude, donc l'agglomération de Montargis, c'est l'ensemble des communes qui sont grisées. Vous voyez qu'il y a un réseau de transport important, il y a des autoroutes nord-sud, il y en a un autre est-ouest, et puis vous avez pas mal de départementales et de routes nationales. Bien, donc la mise en œuvre du modèle de œuf pour les trois hypermarchés. Premier résultat possible, c'est les cartes de probabilité, donc les aires d'influence de chaque hypermarché. Les deux premiers sont situés presque côte à côte, ils sont situés dans la même commune. Donc le premier, c'est un géant d'une superficie de 5 800 m². Le deuxième, dans la même commune que le précédent, d'une superficie légèrement supérieure, Saint-Leclerc. Donc les deux cartes, il y a des différences entre elles, mais elles sont très très semblables. Elles sont très très semblables. Donc ils ont une superficie quasiment très proche, et puis ils sont situés l'un à côté de l'autre. Premièrement. Deuxièmement, on voit, en fait la légende, on ne voit pas super bien, en fait la légende ici, c'est des pourcentages de 0 à 20%, donc de captifs, de 20 à 40, de 40 à 60, 60 à 80 et de 80 à 100. Donc pour les deux premiers supermarchés, il n'y a pas de zone, il n'y a pas de commune qui atteint 80%. Donc le maximum, c'est 60%. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que l'influence, il va aller toucher même les communes situées carrément au nord de l'agglomération. Influence minime, 20%. Donc on peut imaginez que 20% c'est grand, cependant ce sont des communes de première voire de deuxième couronne, et donc à ce niveau-là, en fait la densité elle est très très faible, donc 20% sur une faible densité, ça ne représente pas grand-chose. On va le voir plus clairement avec les cartes suivantes. Le troisième hypermarché, donc celui-là il est situé donc en plein centre de Montargis, donc là vous avez un découpage très fin parce que ce sont des iris de Montargis, c'est la commune centre, avec une densité forte. Alors, vous voyez que l'impact de ce hypermarché, c'est un impact très localisé. Donc, il attire surtout les gens de Montargis, hein, il y a une forte densité, et il attire les gens de communes périphériques situées au centre de Montargis. Donc, son impact, il est très très localisé, il est plus faible que les deux précédents, notamment parce que la superficie, là, son attraction, il est beaucoup plus faible. On aurait pu imaginer en fait que ce troisième hypermarché allait jouer, avoir un effet de barrière et bloquer le 1 et le 2, les deux hypermarchés. Mais les cartes montrent qu'effectivement, il ne fait pas tellement cet effet de barrière. Hein, c'est relatif, puisqu'on a dit que les deux premiers hypermarchés, ils attiraient jusqu'à 20% des communes du Nord. Mais ce 20%, encore une fois, c'est très très faible. Parce qu'il faut le ramener, il faut passer du relatif à l'absolu. Voilà, donc l'étape suivante, donc les cartes de probabilité, donc les aires d'influence. Maintenant, il faudrait parler en, il faut parler en valeur absolue, hein, il faut parler en effectif. Et donc les effectifs, c'est ça, on a dit. Donc c'est TJ, c'est la probabilité multipliée par la génération, donc le nombre de ménages. Et donc on obtient ce que vous connaissez, hein, on obtient ce genre de représentation, donc les cartons oursins. Qu'est-ce qu'on constate? Alors premièrement, le corps des oursins, pour les trois oursins, le corps, donc la partie centrale, là où vous avez des piquants assez larges. Donc on a dit que l'interaction spatiale va s'intéresser à étudier l'intensité des flux. Donc ces piquants qui sont larges et qui sont courts, ils sont tous au centre. Hein, généralement, ils sont au centre parce que c'est là où il y a le plus de monde. Hein, c'est là où il y a la densité la plus importante, premièrement. On retrouve la même remarque précédemment, que les deux premières cartes se ressemblent. Donc on a des oursins très classiques. Ça, c'est vraiment très très classique, qui rayonnent, qui vont chercher relativement loin avec des piquants très très fins et longs. Alors, plus le piquant est fin, ça veut dire qu'effectivement le nombre de personnes concernées est très très faible. Si vous regardez la légende, les piquants fins, c'est moins de 100 personnes. Hein. En effectif, c'est 100 personnes. C'est peut-être pas le premier ou le deuxième au niveau de la légende. Donc, ils vont chercher relativement loin. Premièrement, et ils ont un corps qui est plus important, le corps, c'est-à-dire les piquants épais et courts, ils sont plus importants que pour le troisième hypermarché, puisque ça confirme ce qu'on a dit précédemment, lui, son attraction va être très localisée, et donc il va plutôt attirer du monde au niveau des iris de la commune centre la plus dense, qui est Montargis. Voilà, donc ici, c'est un oursin un petit peu plus caractéristique, un petit peu plus particulier que les deux précédents. Il y a l'effet de la distance qui est derrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Tout simplement, on va... la capacité, en fait, de chaque lieu, on va tout simplement sommer le bleu, ou le rouge, ou le vert par lieu, pour avoir, en fait, cette représentation. Ce ne sont pas des histogrammes, c'est des diagrammes au bâton. Hein, la représentation n'est pas très fidèle. Et donc là, on va avoir une estimation, en fait, du potentiel, si vous voulez, de nombre de personnes par commune. Le vert, c'est-à-dire les gens qui sont captifs de l'hypermarché de Montargis, le bleu et le rouge des deux autres hypermarchés. Donc on va pouvoir estimer les volumes par commune, les captifs par commune ou par iris vis-à-vis de chacun des hypermarchés. Alors, voilà. On peut maintenant se poser la question, si un quatrième hypermarché devait s'installer, il faudrait qu'il aille où par rapport à cette question d'aire d'attraction, par rapport à cette question de part de marché, pardon. Il y a un certain nombre de zones d'activité, donc on a décidé d'insérer ce quatrième hypermarché plutôt dans une ZAC ou dans une zone d'activité où il n'y a pas d'hypermarché, et donc il y avait un certain nombre de possibilités. Il y avait 9 possibilités donc de localisation que vous voyez ici, et donc on met en œuvre le modèle de Huff et on calcule donc la probabilité de ce nouvel hypermarché et la probabilité, le reste, donc la probabilité des 3 autres, c'est 1 moins la probabilité du 4e, et on peut estimer la part du marché d'un futur hypermarché. Donc on a pris un hypermarché d'environ 5000 m2, d'une surface de vente de 5000 m2, et on voit qu'il y a 3 localisations intéressante, puisqu'il faudrait que ça soit au minimum une aire d'attraction d'environ au moins 25%. À partir de 25%, ça commence à être intéressant. Il y en a un, carrément au niveau de l'hypercentre, qui irait jusqu'à 80%. Cette localisation, elle est très peu probable pour des raisons liées au foncier, au coût du foncier. Sinon, il y a 2 localisations aux alentours de 30%, ici et ici, et qui seraient potentiellement importantes. Donc voilà comment on pourrait mettre en œuvre et comment on pourrait exploiter les modèles gravitaires et faire de la prospective en termes de motifs achats. J'ai encore du temps, Dominique, comment ça se passe? Parce que la troisième application, ça prend beaucoup. Ok. Thank you.
Est-ce que vous avez des questions préalablement avant de se lancer dans l'application plus économiste des modèles?
Pour faire ça à la fin, c'est...
Oui, c'est ça. Dans le départ des marchés du nouvel hypermarché, c'est quoi les hypothèses sous-jacentes en termes de clientèle? Si on peut avoir dans ce cas-ci des effets des modèles cœur périphérie, où on va dire que finalement plus il y a de supermarchés dans la même localisation, plus finalement il y a un effet de diversité des produits. Par exemple, avec les concessions de voitures, c'est comme ça, on peut se dire. Il y a deux marques qui sont concurrentes, ou trois marques qui sont concurrentes, on pourrait penser qu'elles vont se mettre chacune à un coin du territoire en disant mais je vais capter un tiers. Et une manière alternative, c'est de dire ok, mais on va se mettre tous les trois ensemble parce que finalement, le client potentiel, c'est qu'il y aura beaucoup plus de choix en termes de choix de voiture que si, chaque
concession
était située. Donc je voulais savoir quelles étaient les hypothèses qui avaient été faites. Pour savoir si en termes de clientèle, est-ce qu'on supposait qu'elle était constante dans l'espace ou s'il y avait moyen de modéliser ça, je ne sais même pas si on
pouvait modéliser ça. En fait, on s'est mis dans la situation la plus confortable et la plus simple. On s'est mis dans une situation de concurrence maximale, puisque en fait, l'attraction des hypermarchés a été déterminée tout simplement par la variable surface commerciale. Donc, on n'a pas regardé s'il y avait des produits qui sont différents. Donc, on pourrait effectivement définir ça différemment et voir effectivement, même s'ils sont proches, peut-être que la concurrence va jouer moins. Cela dit, effectivement, cette notion de concurrence, j'en ai pas parlé, il y a ce qu'on appelle un point d'équilibre qu'on pourrait calculer. On calculerait un point d'équilibre, effectivement, c'est une autre exploitation, pour montrer effectivement à partir de quel moment l'influence de l'un s'estompe et à partir de quel moment l'influence de l'autre, elle démarre. Donc on obtient en fait des graphiques, il y en a un qui fait comme ça et l'autre c'est l'inverse. Mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. C'est en lien direct avec en fait les hypothèses de départ, comment tu définis les attractions et les générations. Donc ça peut complètement effectivement modifier, mais on va dire produits, si c'est les mêmes produits, les mêmes activités, etc. etc. Bon, il faut trouver une caractéristique commune pour définir la concurrence, quoi. C'est ça le...
Parce qu'on peut se dire que les hypermarchés, si on prend... Enfin, je ne connais pas bien les hypermarchés, on peut se dire qu'ils ne sont pas tous spécialisés dans la même gamme de produits, par exemple, il y a des produits plus hard discount, et d'autres qui sont plus produits de qualité, en disant, en mettant un super qualité et un hard discount ensemble, c'est pas fort... Enfin, ils ne vont pas forcément
en concurrence. Oui. Donc ça, c'est clair que les questions d'attraction et de génération, il faut les définir d'une manière très très précise, qui est le plus fidèle par rapport à en fait, l'activité qu'il y a derrière. Donc il y a peut-être une famille d'activités, il y a des typologies d'activités économiques, et donc il faut voir dans quelle... Dominique ?
Alors, la question était intéressante parce que, chose qu'il faut rappeler quand même, c'est quand même la condition de départ. Et ta condition de départ sur l'attractivité, c'était réellement la surface.
Tu l'as
dit, mais on peut le répéter pour marteler un peu la chose. L'attractivité peut se définir de différentes manières.
Absolument.
On pourrait la définir sur la variété, la proximité topologique de magasins de même nature. Peut-être que le supermarché fonctionne comme ça, j'en doute, hein, parce que c'est des magasins assez généralistes, mais les magasins de vêtements, les magasins d'auto, comme tu citais, fonctionnent par regroupement. Et la concurrence se fait plutôt par proximité topologique, par voisinage. Tandis que là, dans une logique plutôt généraliste, je pense que le système est un peu différent. On ne voit jamais un Carrefour, un casino et un géant l'un à côté de l'autre. Donc l'attractivité là, est importante. Ils étaient assez proches, oui. Ouais. Il y a toujours des exceptions pour confirmer les règles et le modèle.
C'était meilleur.